Un moment de réjouissance pour beaucoup. Les gens qui sont ici ce matin veulent montrer à tous qu'ils veulent suivre Christ leur Sauveur. Et Dieu est allé les chercher de différentes façons, mais tous pour la même raison, afin qu'ils soient avec Christ pour l'éternité. On va commencer avec Samuel Lavoie. Samuel a dû faire un choix entre les plaisirs du monde, les irresponsabilités et Dieu. Il va nous conter comment ce que Dieu a fait dans sa vie. Samuel?
Yes.
Remarquez les chaussures, hein?
C'est pour être confortable un petit peu. Ça enlève du stress, ouais. Oh, attends un petit peu. C'est quoi ça? Robert? Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samuel Lavoie. J'ai 22 ans et je veux vous dire ce matin que je suis heureux, même si je suis pas mal nerveux. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous raconter combien j'aime Dieu et comment j'ai été attiré à lui. Je veux remercier mes parents ce matin parce que grâce à eux, j'ai pu entendre la parole de Dieu alors que j'étais très jeune. Puis je me rends compte aujourd'hui que même si j'ai pas toujours marché avec Dieu, les choses que j'ai entendues puis pratiquées à l'église pendant ma jeunesse, ça m'a beaucoup apporté jusqu'à présent. J'ai 5 minutes pour dire décidément trop de choses, fait que je vais faire ça vite. Premièrement, vers l'âge de 14-15 ans, pour moi, la vie c'était de s'amuser. Que les choses comme l'école, puis l'église, puis le travail, c'était des sujets beaucoup trop sérieux pour un petit garçon plein d'énergie comme moi. Fait que inconsciemment, je tassais Dieu de ma vie parce que j'avais les expériences de la vie à faire, puis Dieu, je le connaissais pas. Mais comment tu peux apprendre à connaître quelqu'un que tu n'as jamais essayé d'apprendre à connaître? Bref, un peu plus tard, vers l'adolescence, mon frère se faisait baptiser, puis moi, j'étais encore loin d'avoir saisi l'amour que Dieu a pour moi. Encore à ce moment-là, pour moi, c'était de m'amuser, puis le reste, c'était pas vraiment important. Un peu plus tard, vers l'adolescence, vers 18 ans, j'ai déménagé en appartement avec un ami avec qui je travaillais à ce moment-là. Puis encore là, même plus que jamais, je manquais beaucoup d'organisation puis de maturité. Puis tout ce qui comptait pour moi, c'est de me faire du fun. Mais un beau jour du mois de février cette année, alors que je devais être écœuré de m'amuser cette journée-là, ben je me suis dit, il y avait plusieurs questions qui me posaient en tête, qui me passaient par la tête, puis j'étais pas malheureux, mais j'avais l'impression que je pouvais être beaucoup plus heureux, puis j'avais l'impression aussi que ce que je faisais dans la vie de tous les jours, manger, dormir, travailler beaucoup, m'amuser beaucoup, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, puis pour moi, ça me satisfaisait plus. Alors, je me demandais, aussi, il y avait une question que je me posais, je me disais, pourquoi est-ce que Dieu aurait fait la vie comme ça, sachant très bien que quand on va mourir, on va rien amener avec nous? Mais il y a plusieurs choses que je ne savais pas ou que j'avais oubliées. Fait que mon père, j'ai eu une discussion avec mon père, puis il m'a premièrement rappelé que Dieu nous aime tellement qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur une croix pour le pardon de nos péchés. Puis il nous aime tellement qu'il veut bâtir une vie spirituelle avec nous. Une vie dans laquelle il y a la paix de l'âme et la tranquillité d'esprit pour l'éternité. Alors moi, j'étais bien d'accord avec ces choses-là. J'ai donc commencé à chercher Dieu. Quelques jours plus tard, j'étais chez mon père, puis un ami à mon père, Gérard, me parlait du cœur nouveau que Dieu a pour nous. Puis je vais vous lire un verset dans Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit « Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idolâtries. » Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Alors, moi, dans la même soirée, j'ai fait une prière avec Gérard dans laquelle je demandais à Dieu ce cœur nouveau-là. Puis je lui demandais pardon pour mes péchés et que je désirais le suivre. Alors, ceci étant fait, J'ai commencé à venir à l'église ici vers la fin du mois de février. Deux semaines plus tard, je revenais de Toronto pour une fin de semaine de musique. Puis là-bas, j'avais rencontré une femme qui aime beaucoup le Seigneur. Puis elle m'avait dit toute la fin de semaine d'aller lire le psaume 139. Alors, le psaume 139, elle parlait seulement anglais, cette dame-là. Fait que moi, je voulais attendre d'être revenu à la maison pour aller le lire. À mon retour à la maison, j'ai pas tout de suite pensé, mais j'ai vu un message de Brenda sur Facebook, la femme que j'avais rencontrée. Puis ce message-là, c'était Proverbe 8:17. Et c'est Dieu encore qui parle et qui dit, « Ceux qui m'aiment, je les aime en retour, et ceux qui me cherchent sont sûrs de me trouver. » Alors moi qui cherchais Dieu de plus en plus, je suis tout de suite passé au psaume 139 que je suis allé lire, puis je vais vous le lire seulement les deux derniers versets, parce que le psaume 139, il est long, puis j'ai pas assez de temps. Mais les deux derniers versets, c'est beaucoup ce qui m'a accroché. C'est psaume, c'est verset 23. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Après avoir lu le psaume 139 au complet, en finissant par ça, j'ai premièrement pleuré à peu près toutes les larmes de mon corps. Puis après ça, je regardais ce qui venait de se passer. Puis ce qui venait de se passer, c'est que j'étais repentant. En lisant ça, je demandais pardon à Dieu parce que même si j'avais toujours cru en lui, je ne m'étais jamais tourné vers lui. Je demandais pardon, mais en même temps, je le remerciais parce que deux semaines plus tôt, je m'avais tourné vers lui puis j'avais accepté de le suivre. Mais je n'étais pas repentant d'un cœur sincère. Mais à ce moment-là, Dieu a transformé mon intelligence pour que je puisse voir ces choses-là. Puis quand on regarde un verset comme j'ai lu plus tôt dans Ézéchiel, on peut voir qu'à ce moment-là, Dieu m'a enlevé mon cœur de pierre pour me mettre un nouveau cœur que je lui avais demandé, un cœur réceptif, prêt à obéir, prêt à servir, et l'Esprit de Dieu en moi voulant pratiquer les lois de mon Père céleste. Ce qui venait de se passer était merveilleux. Je vais terminer en vous disant qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est servir Dieu, puis mon cœur est dans la joie. Je suis obéissant ce matin parce que Dieu nous demande de passer par les eaux du baptême, mais c'est une occasion pour moi de vous partager que Dieu a transformé ma vie, puis ma façon de voir les choses. Puis, il est venu me rencontrer à un moment de ma vie où j'avais besoin d'entendre qu'il y a une vie éternelle pour nous dans l'abondance. Merci beaucoup. Yes, je shake un peu, hein? Merci.
Excusez. La prochaine personne, c'est Mme Justine Lefebvre. Justine est une mère de famille qui a laissé sa famille à Haïti. Mais maintenant, elle est au Canada. Et lorsqu'elle est arrivée au Canada, elle cherchait une famille, mais pas une famille juste terrestre. Elle se cherchait une famille éternelle. Elle va nous présenter ce que Dieu a fait dans sa vie. Et voici Jocelyne Lefebvre.
Bonjour à tous. Je m'appelle Jocelyne Lefebvre et je suis d'origine haïtienne. Je suis d'origine haïtienne. Je suis la dernière d'une famille de 6 enfants. Mes parents étaient de foi catholique. J'ai fait même ma première communion. Lorsque j'étais plus jeune, à l'âge de 15 ans, j'allais parfois avec mes amis dans des églises évangéliques. Et même nous allons sur la montagne pour jeûner. Mon frère fut le premier à accepter Jésus-Christ dans sa vie. En 1993, je sentais un besoin tel de remettre ma vie à Dieu. Et je fus la deuxième dans ma famille à donner sa vie à Jésus-Christ. Mon seul regret, c'est de l'avoir accepté si tard, parce qu'avant ma vie n'avait pas de sens. Je réalisais que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Et c'est là aussi qu'on peut trouver une vraie famille. Mon expérience personnelle, c'est que je suis arrivée au Canada sans connaître personne. Je dis à Dieu de me trouver une vraie famille, une famille. Il m'a répondu, et c'est ici à l'église que je l'ai rencontré. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité et sa grande bonté envers moi. Maintenant, je prends la décision de servir Jésus-Christ, de marcher fidèle avec lui. Je résolus de passer par les eaux du baptême publiquement, de laisser ma vie ancienne et vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Je vais terminer avec le verset de Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Ça a été quelque chose de très difficile pour Mme Lefebvre de venir en avant. C'est pour ça qu'elle a lu son témoignage. C'était déjà beaucoup pour elle de pouvoir être ici en avant. La prochaine personne, ça ne nous arrive pas souvent de baptiser des jeunes personnes de cet âge-là. Ah, il y a un chant avant. Excusez-moi. On va laisser la place au chant.
Soit dans nos
Alors, la troisième personne ce matin, habituellement, c'est rare qu'on va baptiser une personne de ce jeune âge-là parce que souvent, à l'adolescence, les jeunes ne sont pas certains de leurs convictions. Mais Alexandre, ce matin, va nous montrer ou elle va nous dire comment Dieu a travaillé dans son cœur et qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision de suivre son Sauveur Jésus-Christ. Alexandre.
Je m'appelle Alexandre Chaperon. Je suis née dans une famille chrétienne. À l'âge de 4 ans, je donnais ma vie à Dieu tous les soirs pendant à peu près un mois. À cet âge-là, je ne comprenais pas vraiment. Je voulais juste pas aller en enfer. Après ça, j'ai continué à vivre ma vie, mais c'était une double vie. Fait que j'étais à l'église, j'étais fine, je servais, j'écoutais, mais je ne comprenais pas vraiment. Puis à l'école, je ne m'exprimais pas de la bonne façon, puis je ne parlais pas de Dieu parce que je ne comprenais pas. J'étais deux personnes. Quand j'étais au camp Bethel en 2009, à l'âge de 11 ans, j'ai réalisé que j'avais une double vie et j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, le Fils de Dieu qui est mort pour tous sur la croix. En étant consciente de ce que ça impliquait. Dans Colossiens 2:3, il dit « Oui, vous étiez morts par vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant à Christ, Dieu vous a fait revivre en lui et vous pardonne de tous vos péchés par sa grâce. » À l'école, j'ai commencé à témoigner. J'avais pu faire de ma fiche en tant que chrétienne, mais mes actions ne démontraient pas toujours que je vivais pour Dieu. En 2011, à travers les camps chrétiens Bethel et Patmos, j'ai compris que j'avais dérapé et j'ai remis ma vie en ordre. Cette fin d'été et début d'année scolaire a été très difficile pour moi à cause de tous mes problèmes de santé. Dans 1 Pierre 5, 7, il dit « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. » Se confier à Dieu est exactement ce qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai fait, parce qu'avec lui, on ressort plus fort d'une épreuve. Pour finir, j'aimerais vous lire mon verset préféré, Matthieu 28:20. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. J'ai décidé de me faire baptiser par obéissance à Dieu.
La quatrième personne, Gabriel a dû faire un choix entre être le plus cool de l'école et Dieu. Alors, Gabriel va nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à là. Gabriel Alain.
Bien, très bien. Oh, c'est fort quand même, hein? Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va. On va y arriver. J'espère que je vais être aussi bon que toutes les autres. Bonjour, je m'appelle Gabriel, pour ceux qui ne connaissent pas. Gabriel Alain, j'ai 21 ans. Je suis présent ce matin devant vous tous pour vous confirmer que je veux suivre notre Dieu, celui qui nous aime malgré nos imperfections. Avant de commencer, je vais vous lire un verset dans 1 Corinthiens 17-18 qui dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et c'est pour cela que je suis là ce matin. J'ai une famille qui s'est convertie quand j'étais tout jeune. Alors, je ne sais pas vraiment à quel âge j'ai accepté Dieu pour la première fois. Mes parents Lynn Desjardins et Mario Alain, qui sont présents dans la salle ce matin, m'ont toujours aidé à influencer à faire les meilleurs choix. Je veux les remercier et leur dire que je les aime beaucoup aujourd'hui. J'ai aussi un frère nommé Charles et une sœur Marie-Ève. Je les aime tous les deux très fort aussi, évidemment. Durant mon jeune âge, j'ai toujours été un enfant qui, selon moi, était assez sage, qui écoutait pas mal tout le temps et qui était assez simple. Ça, c'est de ma jeunesse. Je n'aimais pas la chicane, mais j'ai toujours eu un petit accrochage avec ma sœur, ce qui enlève une chimie de famille. Dieu est notre Père céleste, mais il nous a donné une famille terrestre pour que nous puissions tisser des liens avec des personnes de confiance. Et sur ce côté-là, j'en ai encore à bâtir. Mais plus les années avancent, plus je m'améliore grâce à Dieu. J'ai toujours cru que Dieu était mon sauveur et qu'il avait lavé tous mes péchés. Mais souvent, je trouvais d'autres intérêts ailleurs pour ne pas avoir à parler de lui ou à faire selon sa parole. Mais devant ma famille, j'étais souvent le petit saint qui était souvent dans les éloges. Mais à l'école, tout se gâchait. Je voulais être dans la gang, alors à partir de la sixième, c'est jeune, mais tout a commencé à changer. J'ai commencé à utiliser des petits sacres dans mes phrases, et ça s'est amplifié au secondaire, énormément. Être cool et in dans l'adolescence est très important pour plusieurs, et moi j'étais parmi ces jeunes-là. Je me trouvais comique dans ce temps-là. Je niaisais à l'école, j'ai eu ma première grosse querelle familiale, car je dois faire comme tous les autres jeunes que je côtoyais. Et maintenant, je paye pour. Je veux être le plus respecté de l'école et ne pas être celui qui se faisait niaiser. Car oui, je me suis fait niaiser comme la plupart du monde à l'école. Alors, je faisais comme les autres et je niaisais les autres. Je voulais avoir des amis, être dans la gang. Alors, je me suis mis à essayer la drogue, ce qui attire beaucoup de nos jeunes, malheureusement, maintenant. Et surtout, une des pires drogues légales, l'alcool. Là, je veux spécifier, une consommation, c'est pas pire. Abuser, c'est trop. Modération a bien meilleur goût. Un jour, j'ai réalisé que l'alcool et les mauvaises influences du monde avaient pris une assez grosse place dans ma vie et que je retrouvais mon plaisir que là-dedans. Mais cette réflexion est arrivée car quelques jours auparavant, je m'étais chicané avec ma mère qui voulait que je revienne en relation avec le Seigneur. Mais à cause de mon cœur dur, je ne voulais rien savoir. Ma mère a dû appeler mon père, oui, même à 21 ans. C'est alors qu'il m'a exigé d'aller au petit groupe. C'est là qu'on dit « Obéissez à vos parents, quoi qu'il arrive. Écoutez-les. » Mais c'est après plusieurs rencontres que mon Dieu a vraiment touché mon cœur. Et voilà pourquoi Dieu a dit de toujours persévérer quand on prie, dans la prière, ou quand on a de quoi lui offrir, des requêtes. Car ma mère a prié pour moi, pour ma relation avec le Seigneur, et que je retourne dans le droit chemin. Et grâce à sa persévérance, je suis présent ce matin parmi vous pour vous témoigner mon amour envers Christ. Mes parents m'ont toujours montré le droit chemin. Je veux encore les remercier. Depuis ce jour, un tournant est arrivé dans ma vie. Je suis resplendissant, malgré les jours très noirs. Car je sais qu'un jour, je serai à côté de celui qui m'aime plus que tout au monde, Jésus mon Sauveur. J'aurais quelques remerciements à faire. Je remercie Marc Gosselin et sa famille, qui sont présents à la salle, quelque part là-bas, d'avoir toujours été là pour moi depuis l'école du dimanche, 10-11 ans à peu près. Merci pour vos prières, je vous aime beaucoup. Ainsi que la famille Amel, qui sont présents ici, pour la relation scellée avec notre famille, qui est toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. J'aimerais remercier surtout ma famille de toujours croire en moi. Je ne parle pas juste de mes parents, là, vraiment toute la famille. Toujours croire en moi, car la plupart du temps, tout seul, je ne pourrais pas réussir. Vos encouragements sont appréciés, je vous aime tous. Je remercie aussi M. Chatté, je ne sais pas s'il est là, présent, pour il m'a enseigné, quand je suis revenu, j'ai pris un cours d'enseignement du livre de Marc avec lui. Ça a été une aide bénéfique, merci beaucoup. Je remercie aussi tous les gens de cette église qui prient pour moi, tous les gens qui prient frères et sœurs ensemble. Vos prières sont écoutées, ils sont répondues, mais j'aimerais spécialement remercier le groupe de prière des femmes. Je sais que depuis le début du cours de baptême, ils prient pour nos baptêmes, ça allait bien. Comme vous voyez, ça a bien été, fait que vous voyez que Dieu est grand. Je voudrais vous dire de continuer, car Dieu voit chaque bonne chose que vous faites. J'aimerais finir par un verset qui me touche beaucoup, qui explique pas mal comment est-ce que... qu'est-ce qui arrive en t'acceptant le Seigneur. Voici Dieu et ma délivrance. C'est Isaïe 12, 2 et 3, si vous voulez tourner avec moi. Voici Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.
J'invite à vous lever. Les quatre prochains chants ne seront pas nécessairement dans l'ordre, mais les quatre prochains chants, c'est les chants justement que les quatre personnes qui se font baptiser ont choisi.
Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est toujours plus près de toi.
toi, plus près de toi. Thank you.
est bon, Seigneur, de te louer et de t'adorer. De se rappeler justement l'œuvre à la croix. Et Père éternel, on veut te louer et t'adorer à travers nos dîmes et nos offrandes, qu'il puisse être une offrande de bonne odeur pour toi, Père, et qu'il puisse servir à avancer ton œuvre ici à Longueuil, sur la rive sud, au Québec, Père, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est en ton nom et pour ta gloire que nous te prions. Amen. Je t'invite à prendre place.
Or wash forever. Alors, rebonjour. Je ne pense pas m'être présenté tout à l'heure vraiment. Je m'appelle Yannick Etier. Je suis un des pasteurs de cette assemblée. Et il y a 21 ans, je me suis fait baptiser. Je vous laisse deviner mon âge. C'est bon? Il y a 21 ans, j'ai passé par les eaux du baptême comme ces gens-là. Et j'aime voir la liberté qu'ils ont. Il y a vraiment une foi qui est personnelle, une foi qui est libre, une démarche individuelle. C'est très encourageant pour moi, c'est une vraie joie. On va se courber ensemble dans un mot de prière avant de prendre peut-être un 15-20 minutes dans un passage des Écritures, d'accord? Père éternel, je veux te remercier pour ces beaux témoignages. Ça touche mon cœur de voir combien tu travailles encore aujourd'hui, combien tu fais une œuvre dans les cœurs, Seigneur. En Occident, en 2011, tu bouleverses encore des vies. Tu saisis des gens pour qu'ils décident de témoigner publiquement ainsi de leur foi, de s'engager envers toi pour marcher à ta suite, Seigneur. Des gens rendent témoignage qu'ils trouvent en Jésus-Christ le pardon, la paix, la foi, l'espérance dans cette vie et pour l'éternité. Je te bénis, Père, de ce que tu fais. Père éternel, je crois en toi. Je crois dans la présence de ton esprit ici au milieu de nous ce matin. Je crois dans ta parole. Alors, je te prie de venir faire une œuvre, Seigneur, et que rien de ce qui peut se faire ce matin ici ne soit le fruit d'hommerie, de manipulation quelconque, mais que ce soit l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, Seigneur, qui vient appliquer cette parole à nos vies personnellement. Et dans ta grâce, Seigneur, dans ta grâce, je te prie que quelques-uns se sentent interpellés, Seigneur, par ta personne, Jésus-Christ, par ta parole. C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, environ en 15 minutes, je voudrais adresser une question pas facile de la foi. D'accord? De la foi en Dieu. Pour essayer de juste donner quelques pistes de réflexion. Une des choses, avouons-le, qui est difficile avec la foi en Dieu, c'est la foi. C'est vrai? Ça serait plus simple, il me semble, si au lieu d'avoir à croire en Dieu, on pourrait dire voir Dieu. Non? Il me semble que ce serait plus simple. Alors, ce matin, je vais adresser cette question-là. Est-ce que si on pouvait voir Dieu vraiment, cet être invisible que tant de gens disent croire, est-ce que les choses seraient pas plus simples? Comment est-ce qu'on peut voir Dieu? Est-ce que c'est possible de faire ça? Vous savez, à part quelques mystiques qui nous disent, qui nous rapportent avoir vu Dieu ou une manifestation de Dieu, pour le commun des mortels dont je suis, il reste invisible. Et pourtant, pour des millions de personnes sur la Terre actuellement, pour des millions de personnes qui se disent chrétiennes, Dieu est vraiment là et ils le saisissent par la foi. Voir Dieu, est-ce que ce serait possible de voir Dieu? On va aller dans un passage ensemble et si vous avez une Bible avec vous, tournez avec moi s'il vous plaît dans Jean 14. L'Évangile de Jean au chapitre 14. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez toujours lever la main. Les placeurs vont se faire un plaisir de vous en apporter une dans Jean 14, s'il vous plaît. Autrement, vous pourrez suivre avec nous. On a affiché le passage ici en avant. Je pense que ce passage de l'Évangile selon Jean au chapitre 14 peut nous aider à comprendre pourquoi les gens se font baptiser aujourd'hui. Faut réaliser, on est en 2011, nous sommes en Occident, à l'époque où tout ce que nous croyons doit être vu, touché et senti, d'accord? Ça prend une démonstration scientifique pour faire quoi que ce soit. Si on bouge pas plus vite que ça par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'il y a des gens qui disent, ben, scientifiquement, il nous en manque encore un peu pour peut-être décider de faire quelque chose, d'accord? On est à cette époque-là. Et vous avez vu les personnes, vous avez entendu comme moi les gens qui étaient à l'avant ici. Ces gens-là, librement, placent leur foi en Jésus-Christ. Au point, comme disait Gabriel, de dire, « Ben, il faut que j'affirme ma foi même devant mes amis à l'école. Jésus mérite ça. Ce qu'il a fait pour moi mérite ça. » Et ils le font librement. Alors, je pense que ce passage-là peut éclairer un peu comment ces gens-là voient Dieu. Ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ. Jésus est un personnage exceptionnel qui a marqué l'histoire de l'humanité de manière étonnante, d'accord? L'histoire de l'humanité est façonnée par Jésus-Christ et les quelques régions de la terre qui n'ont pas été encore bouleversées par ce personnage-là historique sont en train de l'être actuellement. Alors, les endroits actuellement sur la terre où l'Évangile est en train de croître, dans notre jargon, encore une fois, le plus rapidement, c'est l'Asie actuellement. Et littéralement, des millions de Chinois sont en train de placer leur foi en Jésus-Christ. Alors, les régions de la terre qui n'ont pas déjà été bouleversées sont en train de l'être. C'est un personnage étonnant qui a affecté, qui a façonné l'histoire de l'humanité de manière étonnante. Les quatre évangiles qu'on retrouve dans la Bible nous racontent toutes sortes de miracles de Jésus, toutes sortes d'enseignements fascinants qu'il a apportés. Maintenant, il y a un aspect fondamental de la personne de Jésus-Christ qu'il faut comprendre si vous voulez comprendre le christianisme. Si vous voulez comprendre c'est quoi que ces Jesus freaks le croient, vous devez savoir ça sur Jésus et saisir ça, que vous le croyez ou non. Pour comprendre le phénomène chrétien, il faut saisir ces choses-là. Simplement pour vous mettre en contexte, dans le passage où on s'en va, dans Jean 14, Jésus est quelque temps avant le moment où il va se laisser arrêter volontairement, librement. Il va être battu, mutilé. Il va être jugé dans une espèce de tribunal, phony baloney, qui n'est pas tout à fait juste. Et en fin de compte, il va être crucifié comme on crucifiait les criminels à l'époque. Et la Bible nous raconte que 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Alors, on est quelques temps avant ces événements-là. Et Jésus veut préparer ses disciples parce qu'il y a une gang de fous qui suivent ce gars-là depuis 3 ans. Ils l'ont écouté, ils l'ont regardé aller, ils ont vu les choses qu'il fait. Et ces gens-là ont dit, wow, attends un petit peu. L'Ancien Testament nous annonçait qu'un Messie allait venir, qu'un Sauveur allait venir. Il y avait des prophéties, des fois obscures, des fois très claires, qui nous disaient qu'un Sauveur allait venir. C'est lui! C'est lui! Et ces Juifs-là croyaient qu'il était ce Messie annoncé par des textes prophétiques très anciens. La semaine prochaine, en préparation pour Noël, on va regarder un peu ces promesses-là qui ont été faites d'un Messie qui allait venir. Ses disciples qui le suivent croient qu'il est le Messie. Maintenant, Jésus, lui, sait, c'est ce que les Écritures nous disent, Jésus sait que dans quelques heures, il va être arrêté, il va être crucifié, et il sait pertinemment que ses disciples ne sont pas prêts pour celle-là, par exemple. Ils croient en lui, mais eux ont l'impression que Jésus va aller prendre un contrôle politique. Israël est à ce moment-là est sous domination romaine, comme toute la région, et ses disciples croient que Jésus va libérer Israël de la domination romaine. C'est ce qu'ils croient. Jésus sait que cette délivrance-là qu'ils attendent, c'est pas pour maintenant, puis c'est pas comme ça que ça va se passer. Jésus est venu pour nous délivrer, non pas des oppresseurs romains, mais nous délivrer de l'oppression du péché dans nos cœurs, d'abord et avant tout, pour nous amener à être réconciliés avec Dieu. Et c'est l'œuvre première qu'il est venu accomplir. Les disciples n'ont pas catché cela. Alors, lorsqu'il va se faire arrêter et qu'ils vont le voir pendu au bois, ils vont commencer à avoir des doutes sérieux. Et Jésus veut les préparer, d'accord? Il veut les préparer aussi à son ascension. Si vous n'êtes pas familier avec le christianisme, l'ascension, ça ne vous dit peut-être rien. Après sa crucifixion, après sa résurrection, les Saintes Écritures nous racontent que Jésus est monté au ciel pour retourner vers le Père. Et donc, à partir de ce moment-là, il reste quelques temps où les disciples vont voir Jésus, parce qu'il va être arrêté, crucifié, il va ressusciter d'entre les morts et il va monter dans la gloire du Père. Pouf, les disciples vont tomber sans Jésus. Il ne sera pas présent. Jésus veut les préparer pour ça. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici dans le passage de Jean 14. Brièvement, Jean 14, verset 1, je vais vous lire jusqu'au verset 11. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Thomas était un de ses disciples. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. D'où cette question de voir Dieu. Philippe, un autre des disciples, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, et on sent un peu de tristesse ici, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Voir Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Voir Dieu. Jésus est un personnage pas mal complexe. Les disciples marchent avec lui depuis environ 3 ans. Ils ont écouté ses enseignements, ils l'ont vu discuter avec des spécialistes de l'Ancien Testament. Lui qui semblait pas avoir de formation particulière, ils ont entendu la sagesse qui était sur ses lèvres. Ils ont vu Jésus et nous racontent. Ces gens-là qui ont écrit la Bible, la majorité d'entre eux sont morts martyrs pour ce qu'ils racontaient. Ils nous racontent les miracles qu'ils ont vu Jésus faire, d'accord? Et donc, il nous raconte tous ces hauts faits qu'il a fait en guérissant des gens, les paroles qui sortaient de sa bouche. Cette vision qu'il avait de la foi qui était révolutionnaire. Jésus s'est beaucoup attaqué au système, à l'institution, à la religiosité qu'on peut avoir, qui a tendance à diviser les gens dans des castes, dans des groupes. Non, Jésus dit tout le monde peut venir avec un cœur humble à Dieu. Et simplement venir pour être aimé de Dieu, pardonné par Dieu. Jésus a attaqué cela énormément. Ils ont vu ça, et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'ils ont pu saisir jusqu'à présent, c'est que Jésus est certainement le Messie qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus est certainement la personne en qui les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies. Et ça, ils arrivent à le saisir. Maintenant, ce n'est qu'après la crucifixion. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est qu'après son ascension, que les disciples vont vraiment commencer à saisir qui il est. Lorsqu'on lit l'Évangile de Jean, et je vous encourage à prendre le temps de lire l'Évangile de Jean, on commence au chapitre 1, puis là on voit ce que Jean pense de Jésus. Wow, c'est plus juste le Sauveur, c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Si vous allez lire Jean 1, juste le chapitre 1, vous allez voir comment Jean comprenait qui était la personne de Jésus-Christ. Mais les disciples ne vont vraiment commencer à comprendre sérieusement qui est Jésus-Christ comme personne dans toute sa richesse seulement qu'après la crucifixion, la résurrection, son ascension. C'est seulement là qu'ils vont réussir à saisir qui est Jésus-Christ. Alors Jésus dit quelque chose ici au verset 6. Jean 14, 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'est pas en train de dire, « Je vous montre le chemin pour aller vers Dieu. » Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est le christianisme, une des différences fondamentales, la différence fondamentale entre le christianisme et quelques religions qu'il y a sur la terre, Jésus n'est pas venu nous montrer un chemin pour aller vers Dieu. Jésus est lui-même le chemin à emprunter pour aller vers Dieu. Je sais que c'est bizarre ce que je dis là. C'est pas comme si on marchait sur le camp, je comprends. Mais c'est pour ça qu'on parle de croire en Jésus. C'est pour ça qu'on parle de placer sa foi en lui. Parce que nous croyons que Jésus est celui qui a accompli tout ce qui devait être accompli pour que je puisse accéder à Dieu. Et c'est en plaçant ma foi dans son œuvre, dans ce qu'il est comme personne, dans ce qu'il a accompli, que j'ai accès à la personne même de Dieu. Jésus dit aussi ici qu'il est la vérité. Il ne dit pas qu'il est une vérité. Il ne dit pas qu'il est une vérité parmi les autres vérités. Jésus dit qu'il est la vie et que c'est en lui que nous trouvons la vie. Et enfin, Jésus fait une déclaration les plus scandaleuses pour notre époque, pour l'Occident, pour cette ère post-chrétien qu'on appelle post-chrétien. Jésus dit à la fin du verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il affirme, il déclare qu'il n'y a aucun autre chemin, aucun autre moyen, aucune autre personne par laquelle nous pouvons accéder à Dieu. Les disciples vont comprendre cela dans les jours qui viennent parce que Jésus va se rendre à la croix, librement, volontairement, va se faire arrêter et il va être crucifié. À ce moment-là, les disciples ne saisiront pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il est crucifié? Pourquoi est-ce qu'il meurt? On l'a vu faire des miracles, il aurait pu arrêter tout ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Et trois jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et là, progressivement, les disciples vont commencer à saisir que ce sacrifice-là, cette mort-là, était un sacrifice nécessaire et que Jésus, en allant sur la croix, est venu offrir sa vie, lui qui est saint. Il l'avait vu pendant 3 ans. Ils avaient très bien vu que cet homme-là se distinguait des autres. Ce n'était pas un homme comme les autres. Et ils vont comprendre que cet homme est venu offrir sa vie en sacrifice sur la croix afin de payer pour les péchés de tous ceux qui placeraient leur foi en lui, de tous ceux qui croiraient en lui. Je reviens à ma question du début et je vais terminer avec ça. Jésus fait une déclaration après encore. Il dit au verset 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Voyez-vous, pour ceux qui sont chrétiens, ceux qui ont décidé de placer leur foi en Jésus-Christ, Dieu demeure invisible. Moi, je n'ai pas rencontré encore Jésus, puis si je vous dis que j'ai rencontré Jésus, demandez-moi de prendre un rendez-vous pour commencer chez mon médecin. Mais peut-être, je crois que Dieu peut apparaître, je crois ça, mais pour le commun des mortels, à part quelques mystiques, on marche par la foi. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais voyez-vous, pour nous, chrétiens, ce qui change la donne énormément, c'est que Dieu est devenu concret et visible dans la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et bien que Jésus ait été sur la terre il y a maintenant plus de 2000 ans, nous avons la possibilité de lire le récit de ces gens qui ont été témoins, qui ont vécu, qui ont marché avec Jésus. Et donc, pour nous, ce Dieu invisible, à travers la vie, les enseignements et l'œuvre de Jésus-Christ, nous le découvrons parce que nous croyons qu'il est Dieu le Fils, qu'il a révélé Dieu le Père dans sa personne et dans ses œuvres. Et Jésus dit quelque chose un peu plus loin. Et je veux juste vous donner une piste, d'accord? Si vous dites, « Ouais, c'est gros, tu sais, c'est juste lui le chemin. » C'est big ton affaire, mon homme. Je trouve que c'est exclusif un petit peu. Regardez le verset 11. Jésus dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Et Jésus est en train de parler de toutes les œuvres que Dieu a accomplies à travers lui. Que ce soit ses enseignements, que ce soit cette réforme profonde qu'il apporte dans la vision de la religiosité, que ce soit les miracles qu'il a accomplis, mais d'abord et avant tout l'œuvre qu'il va accomplir dans quelques heures, en se laissant arrêter, en étant crucifié, en ressuscitant d'entre les morts, et l'œuvre qu'il continue à accomplir. Alors pour ceux d'entre vous qui demeurez sceptiques, puis vous vous dites « Oui, mais ce n'est pas très tangible », voici comment moi je vois les témoignages des 4 personnes qui sont venues ici tout à l'heure et qui vont se faire baptiser. Clairement, pour ma foi, ce sont encore des œuvres que Jésus-Christ est en train d'accomplir. Songez-y sérieusement. Des gens tout à fait intelligents se sont présentés devant vous tout à l'heure, librement, ne sont pas contraints par personne, ont fait un cheminement personnel. Certains de la foi de leurs parents sont partis à une foi personnelle, d'autres ont simplement entendu parler de Jésus-Christ sans avoir été introduits à la foi dans leur enfance. Et ils racontent eux-mêmes ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie pour les bouleverser. Voici aussi les œuvres de Jésus-Christ. Dieu demeure invisible. Et puisque je suis chrétien, j'ai cette ferme conviction qu'un jour, je vais voir Jésus-Christ devant moi dans sa gloire. Mais c'est possible déjà, en ouvrant la Bible, en lisant les récits des évangiles, de découvrir à travers la personne de Jésus-Christ cet être invisible qui est Dieu. J'aimerais ça vous encourager. Alors qu'on se prépare pour la période des fêtes. Vous savez que c'est une fête chrétienne, Noël? Au-delà des cadeaux, c'est une fête chrétienne. Parce que nous, on va célébrer la naissance du Sauveur, la naissance, l'arrivée d'Emmanuel. Dimanche prochain, comme je mentionnais tout à l'heure, on va voir ensemble que sa venue était annoncée. Qu'est-ce qui était promis à travers sa venue? Et puis le 18, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il nous a apporté en venant au monde. Qu'est-ce que Christ est venu transformer en venant au monde? J'aimerais ça vous encourager. Et là, je vais parler avec un langage spirituel. J'aimerais ça vous encourager. Si dans votre cœur, vous dites, il me semble qu'il faut que je fasse une démarche par rapport à Dieu. Il faut que j'explore. Il faut que je vois qui est Jésus-Christ. Il faut que j'aille le découvrir. Si dans votre cœur, vous sentez ce désir, je vous encourage tout simplement à prendre une Bible. Si vous n'en avez pas, demandez-nous-en, on va vous en donner une, ça va nous faire plaisir. Et commencez à lire des évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Allez voir ce que ces quatre personnes qui se présentent ici devant vous ce matin ont découvert en Jésus-Christ. Et pourquoi ce Dieu invisible qui pourrait sembler tellement distant est tout près d'eux maintenant et guide leur vie. On va prier ensemble avant d'assister au baptême. Père éternel, comme le chant qu'on va entendre, qu'Alexandre a choisi, le dit, Seigneur, la foi. La foi, c'est un défi pour les chrétiens, parce que des fois, on voudrait pouvoir te toucher. Des fois, je voudrais que tu sois là. Il m'arrive de crier, Père, et de dire, « Manifeste-toi à moi, j'ai besoin de te voir concrètement dans ma vie, j'ai besoin de voir que tu es vivant, Seigneur. » Mais j'ai appris, Père, à te connaître à travers la personne de Jésus-Christ. J'ai appris, Père, à connaître ton amour et ta grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ, à travers ses enseignements, mais surtout, Seigneur, à travers ce qu'il a accompli à la croix, en s'offrant en sacrifice pour mes péchés, pour ce qui me fait honte, pour ce que je voudrais cacher, Seigneur, afin que mon cœur puisse être en paix et que je sois réconcilié avec toi, sachant que je suis à présent dans ta famille, Seigneur, ton enfant. Je te prie de parler à nos cœurs et je te remercie, Père, pour ces beaux témoignages et ces baptêmes. C'est vraiment touchant de voir ça aujourd'hui en 2011 au Québec. C'est très encourageant, Seigneur. Merci. Amen.
Some say we've all been searching for a God for years in vain. And some say belief is just the easy way around our pain. And sometimes I'd like to agree when they're telling me that this is all an accident. It's hard to let this heart believe when my mind is screaming out, I need more evidence. But do I really need more evidence? I want a miracle, something impossible. So would you help me to believe? When you say everything that's right in front of me is all the proof I'll ever need. I hear it in the winter wind that blows the icy snow against my skin. And I see it in that summer sun that rises high and then burns out again. And I feel it in my chest in the quiet moments that I trust in what you say. What you say? I want a miracle, something impossible. So would you help me to believe? When you say everything that's right in front of me is all the proof I'll ever need. Mm-hmm. Maybe this is what it means to question you and still to still be satisfied, to know and yet to wonder why, to put my faith in things I doubt, to love what I can't figure out. Oh,
On va commencer dans le même ordre que les témoignages. Alors, Samuel, ton tour. Samuel,
oui.
Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel?
Oui.
Sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jocelyne, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Oui.
Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel?
Oui.
Sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel?
Ouais.
Sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gabriel, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Convaincu.
Convaincu. Est-ce que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel?
Aussi, oui.
Sur ta propre profession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
On va se lever. Je vais prendre le bon micro.